41.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, les sens et les couleurs.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Céline Hila, assistée de June Loper, avec Léo Prangère à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, pendant que des gilets jaunes, des gilets rouges et des militants des quartiers tâtent des mêmes gaz lacrymogènes à Paris, on fait un pas de côté auprès d'enfants en danger et de juges qui doutent. Une journée en immersion au tribunal pour enfants de Bobigny, quand la justice vacille, c'est toute la société qui trinque.
On dit qu'on est des juges des enfants, tenus d'assurer notre mission, qui est de protéger les enfants en danger, et qu'à cause de questions de moyens financiers et de moyens humains, eh ben on peut pas le faire.
Tous les secteurs ont des raisons d'être en colère. En vérité, tous les secteurs ont des raisons d'être à bout.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Il est des jours où on se dit que ça craque d'un peu partout. Oh, je vous dis pas ça pour jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je note simplement, à voir comment politiques, syndicalistes et éditorialistes surveillent les gilets jaunes comme le lait sur le feu, combien l'unanimisme de tous les ras-le-bol met à jour une république qui patine. Pensez, Christine Boutin à Cyril Hanouna, en passant par Marion Maréchal Le Pen, tout le monde est gilet jaune, même Patrick Balpany. Vous me croyez pas ?
Mais moi, je comprends très bien les gilets jaunes. Ce que je comprends surtout, moi, c'est l'exaspération des Français devant les taxes. Et on voit vraiment la fureur monter.
Et croyez-le, il s'y connaît en taxes, Balkany. Vous vous souvenez des appels à la convergence des luttes pendant les mobilisations contre les ordonnances travail ou la réforme de la SNCF ? Eh bien, on croirait qu'on y est, à voir tous ceux qui courent derrière les gilets jaunes. Alors peut-être cette euphorie anti-Macron s'érodera avec le bilan de ce troisième samedi d'immobilisation et les éléments de langage qui seront distillés pour contenir cette crise inédite. Mais reste la colère spontanée. C'est pourquoi, Antoine, toi, tu es allé en amont de cette journée.
Jeudi, place de la République, c'était « Eh Paris, on se bouge !» à l'appel du collectif « La fête à Macron » avec François Ruffin, Frédéric Lordon et Assa Traoré, façon AG Nuit de Boutiste. Et vendredi, le collectif Rosa Parks préparait aussi leur manif d'aujourd'hui pour que les quartiers populaires soient de la partie et que Paris et banlieue s'éveillent.
Alors une autre manière de voir comment la société va mal sous les impératifs budgétaires, c'est aussi au tribunal pour enfants de Bobigny. Alors j'entends déjà les mauvaises langues dénoncer une justice trop laxiste envers de jeunes sauvageons. Sauf que les juges pour enfants n'ont pas pour seule mission de juger des mineurs délinquants. Loin de là, ils sont aussi responsables de la protection de l'enfance, c'est-à-dire de mettre des mineurs à l'abri de coups, d'attouchements, de donner à des innocents pas nés sous la bonne étoile une chance d'échapper au déterminisme du malheur. Et en Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune et le plus pauvre de France, Charlotte, les juges eux-mêmes appellent au secours.
Ouais. Début novembre, les 15 juges du tribunal pour enfants de Bobigny publiaient une tribune pour alerter sur le manque de moyens humains et financiers qui frappent la justice des mineurs en Seine-Saint-Denis et plus particulièrement la protection de l'enfance. En 2017, près de 4000 nouveaux signalements sont parvenus au tribunal pour enfants, soit 12% de plus qu'en 2016. Pourtant, par manque d'éducateurs, plus de 900 familles attendent encore que les mesures d'assistance éducative ordonnées par les magistrats soient exécutées. Et tout cela alors que les enjeux sont énormes, car des enfants mal protégés deviendront des adultes davantage vulnérables, plus facilement en proie à toutes sortes de violences, y compris terroriste. Alors, au tribunal pour enfants de Bobigny, un tribunal un peu défraîchi à l'intérieur du tribunal de grande instance, on bricole comme on peut pour essayer de prendre en charge au mieux ces enfants cabossés, ceux que la vie n'a pas gâtés.
Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, une journée au tribunal pour enfants de Bobigny, la grande misère de la protection des mineurs.
Des juges pour enfants du tribunal de Bobigny qui lancent un appel au secours sur l'état de la justice pour les mineurs.
Nous, juges enfants du tribunal de grande instance de Bobigny,
souhaitons alerter sur la forte dégradation des dispositifs de protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis.
Je ne nie pas la responsabilité de l'État, mais je dis que la mise en œuvre des décisions de nature civile qui concernent les enfants, cela appartient au département.
Je ne peux pas, député de la Seine-Saint-Denis, ne pas vous dire, madame la ministre, vous avez 15 juges pour enfants qui vous disent que la justice des enfants en Seine-Saint-Denis est un bateau qui coule. Et vous leur répondez de regarder ailleurs.
Juge des mineurs délinquants, nous sommes aussi juge des mineurs en danger.
Quand on a 17 ans en Seine-Saint-Denis, on n'est pas traité comme on le serait dans n'importe quel autre département.
On va dire le pire, on va dire que c'est ça, c'est la prison. Voilà.
tribunal pour enfants de Bobigny. Mesdames, messieurs les justiciables, mesdames, messieurs les avocats, mesdames, messieurs les éducateurs, vous devez vous présenter obligatoirement à l'accueil. L'agent d'accueil confirme votre présence au juge des enfants.
Près de 900 mesures, soit 900 familles, sont en attente.
Bonjour,
monsieur.
Bien.
Ah, bien, ça va alors. Ah, ma bruit qui court.
Guy Vanctil. Salle d'attente en sous-sol.
Charlotte Perry.
Les murs jaunes, des affiches déchirées de Snoopy.
Antoine Chao.
Nous sommes devenus les juges de mesures fictives, alors que les enjeux sont cruciaux pour la société de demain.
Hashtag comme un bruit.
Donc l'audience peut commencer, on va couper l'enregistrement.
Grande salle d'attente au rez-de-chaussée, devant le bureau de Madame Magali Lavibadi, cabinet 103, secteur Saint-Denis. Bonjour, vous sortez du bureau du juge des enfants.
Voilà, du juge des enfants, maître Lavibadi, qui suit mon petit-fils.
Ah, vous êtes grand-mère ?
Je suis grand-mère, tout à fait, et j'en suis vraiment très satisfaite. Je n'ai rien à dire. Ils ont toujours été là et... Que Dieu m'en garde. Je suis vraiment...
Je suis désolée.
J'ai pas à me plaindre, en tout cas.
Je suis vraiment satisfaite. Tu peux parler, si tu veux, chérie.
Bonjour.
Bonjour. Toi, tu as vu le juge ce matin?
Oui, j'ai vu le juge. Et après, j'étais en train de jouer. Et après, j'ai rangé. Là, on va partir.
Est-ce qu'elle est gentille, madame la juge?
Oui, elle est très gentille. Elle m'a dit que si maman te rend une petite visite, tu pourras. Et papa, il peut rendre une petite visite. Et après, c'est mon ami qui va me garder. J'habite en Saint-Denis.
Avec ton papa et ta maman?
Non, pas ma maman. Ma maman, elle est très loin.
Tu as quel âge?
6 ans. Et c'était mon anniversaire. Mon papa, il a gâché mon anniversaire.
Pourquoi tu dis ça?
Oh, parce qu'en fait, c'est vrai, parce qu'en fait, il a soulevé la table, il n'était pas bien, qu'il était malade.
Il a soulevé la table?
Donc, il est allé à l'hôpital pour se soigner encore. Et après, là, il est revenu pour faire le rendez-vous. Et après, là, je l'ai vu, je lui ai fait un câlin, il est revenu. Et c'est tout.
Il était là, ton papa, ce matin?
Oui, il était très bien là, il sentait mieux. Au revoir.
Au revoir.
C'est la toute première fois que je viens par rapport à mon fils. Je suis convoqué parce que j'avais écrit au juge. Mais par contre, moi, j'habite pas ici, j'habite trop loin.
Est-ce que vous habitez où?
Moi, j'habite à Lyon. Et mon fils, Brandon, lui, il habite ici, chez la mère. Voilà.
Et pourquoi vous avez écrit au juge?
J'ai écrit au juge parce que dans les quartiers où l'enfant il habite, il fait trop de bêtises. Il fait des figues répétitives. Là où il va, je sais pas. Ni sa mère, je ne sais pas. Il va, il fait 4-3 jours, il revient. 4-3 jours, il revient. Et là, il n'y a pas longtemps, l'enfant, il a eu une affaire.
Il a eu une affaire?
Avec la police, ouais. Avec la police. Parce qu'il y a des gangs dans les quartiers, ils utilisent les gamins pour faire leur business. C'est par rapport à ça que je suis venu pour voir les juges pour essayer de faire quelque chose pour lui. Parce que là, il a fait une affaire où... Dans l'affaire, les gens ils l'ont utilisé pour aller faire des braquages. Vous voyez? Déjà avant, moi j'avais écrit au juge. Et en attendant que les juges me répondent, ces gens-là, ils ont utilisé les gamins pour aller faire des braquages. Vous voyez, il a que 16 ans et tout. Donc moi, je vais voir avec les juges dans la mesure où si on peut l'envoyer à l'internat. Là où il sera suivi et être un peu loin de son quartier.
C'est quel quartier?
Ah, c'est à Rony, non? Les Rony et Montreuil. Ils ont promis qu'ils allaient donner des scooters. Après, ils ont utilisé pour aller faire rentrer chez quelqu'un et voler l'argent. C'est des trucs comme ça, des fois ça peut tourner mal s'il y a mort d'homme. Mais moi, j'ai craint pour ça et c'est eux qui vont mettre un système en place pour que l'enfant soit bien dans l'avenir. Parce que dans les quartiers là où il est, ça craint beaucoup. Et si ça tourne mal, l'enfant il sera pas là, il sera déjà en prison. Et ça craint, ça craint.
Vous êtes la maman ? Quand vous êtes prête, on y va parce qu'on vous attend, vous étiez en retard.
Tu kiffes l'école, tu voles, tu kiffes. Tu cherches ta somme, c'est la route. Ouais. Pour du liquide, toi tu liquides. Ouais. Tu vas avec ou sans équipe. Ouais. C'est la vie qu'on mène. Ouais. Bébé, moi 40 000 dollars. Ouais. C'est la vie qu'on mène. Une grosse pensée à tous mes dollars.
Allez, vous pouvez vous installer. Magali Lavibadi, je suis juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny.
Comme tous les juges pour enfants du tribunal de Bobigny, vous êtes signataire de la tribune, qui est une sorte d'appel au secours en fait.
Oui, tout à fait. Nous avons rédigé et publié ce texte pour informer tous nos concitoyens de la situation alarmante que vivent les enfants de ce département. Ils ne sont pas pris en charge alors qu'ils sont en danger, puisque dans ce département, alors même qu'un juge a constaté qu'un enfant se trouvait en danger et qu'il a estimé qu'il fallait mettre en place une mesure d'assistance éducative pour l'aider, eh bien l'enfant est laissé dans cette situation pendant une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois, parce que les services éducatifs n'ont pas les moyens de mettre en œuvre tout de suite la mesure ordonnée par le juge.
Juste là, il y avait une famille qui attendait. Le monsieur me disait qu'il était très inquiet pour son fils. Il vous avait écrit déjà. Entre-temps, avant qu'il ait eu une réponse, apparemment, son fils a commis un braquage.
Là, dans cette situation-là, entre guillemets, le fait que ce mineur ait commis un acte de délinquance va pouvoir m'aider à mettre en place une mesure éducative pour les parents. Sinon, je me serais retrouvée dans la situation où il aurait fallu attendre le fameux délai pour que ses parents puissent avoir une prise en charge éducative. Le problème, c'est que si à l'issue de cette mesure d'investigation, il n'est pas mis en examen dans le dossier pénal, eh ben là, je vais me retrouver complètement démunie, parce que quand bien même j'ordonnerais une mesure d'assistance éducative, elle démarrerait dans un an et demi, donc quasiment à sa majorité. Et c'est là où il y a une rupture d'égalité, c'est qu'on a des enfants qui vivent au sein d'un même pays, sur le territoire national, qui sont soumis aux mêmes lois, qui ont les mêmes droits, mais qui ne sont pas protégés de la même façon.
Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, en tout cas dans certaines situations, là dans le cas de ce jeune homme que vous venez de recevoir, il y a une situation qui relève de la protection de l'enfance et qui glisse ensuite vers la délinquance. Donc si la protection de l'enfance est correctement prise en charge, peut-être que ça évite une partie de glisser vers la délinquance.
Ben absolument, c'est là où c'est terrible. La grande majorité des enfants, des mineurs qu'on rencontre en délinquance sont des mineurs en danger. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont connu de la violence étant petits, soit de la violence entre leurs parents, soit de la violence sur eux-mêmes. Ce sont des enfants qui ont rencontré des difficultés scolaires, qui ont des difficultés financières énormes et qui vont très vite être attirés par l'argent rapide et l'argent facile. En réalité, ce sont les mêmes. Les enfants qu'on rencontre au niveau de la délinquance, ben ce sont des enfants qui, petits, auraient dû être pris en charge par la protection de l'enfance, et il y a beaucoup de loupés.
Oui ?
Il y a une autre famille qui est passée vous voir, c'était la grand-mère avec son petit-fils.
Alors effectivement, c'est un enfant qui a été placé, notamment parce que les relations entre ses parents étaient particulièrement complexes et qu'ils sont jeunes et que ni l'un ni l'autre ne pouvaient le prendre en charge correctement. Le papa travaillait et avait effectivement le soutien de sa maman. Donc avec un travail de l'aide sociale à l'enfance, qui s'occupait du placement de l'enfant, le papa a pu apporter les garanties pour qu'ensuite l'enfant rentre chez lui. C'est une décision que j'ai prise, cet enfant lui a été remis. Tout en sachant que le papa vit en réalité chez la grand-mère. J'avais mis en place une mesure d'assistance éducative. Le souci, et c'est là qu'on en revient à notre tribune, c'est que cette mesure éducative, je l'ai ordonnée il y a plus d'un an. Et quand j'ai revu la famille au mois de juin, bah évidemment, elle n'avait pas commencé, puisqu'on était toujours dans le délai d'attente. Et là, récemment, le papa a rencontré des graves difficultés. Et la grand-mère m'a écrit pour me dire « Depuis que mon fils a été hospitalisé, qu'il a perdu son travail, il va très mal. Il est très irritable, il est très irascible et il a fini par être violent envers son fils et envers effectivement aussi le mobilier. » Donc en fait, cet enfant est sorti de placement fin 2017 et pendant un an, il n'y a pas eu de prise en charge éducative alors qu'on est sur une situation évidemment extrêmement compliquée puisque c'est un retour de placement.
Et là, tout peut arriver, quoi.
Oui, tout peut arriver. Et la peur du juge des enfants, c'est qu'il arrive un drame et que la décision de retour à domicile n'ait pas été la bonne.
On pourra agir contre ça.
Il y a une question financière qui se pose, effectivement. C'est quel budget on alloue à la protection de l'enfance? Est-ce que l'État aide plus les départements sur cette question-là? Est-ce qu'il aide plus certains départements, ceux qui sont le plus en difficulté, ceux qui connaissent le plus de dossiers de protection de l'enfance? Et surtout, quelle responsabilité de l'État, du conseil départemental, si un jour un drame arrive? Puisque, en réalité, nous, si on a choisi de faire cette tribune, c'est pour que tout le monde soit prévenu avant qu'un tel drame arrive. Parce que ce que je peux vous assurer, c'est le jour où un enfant décède ou agresse quelqu'un d'autre, alors qu'il aurait dû être pris en charge, soit placé, soit soutenu par des éducateurs. Ce sera partout dans les médias et on viendra demander pourquoi une décision d'un juge des enfants n'était pas respectée. Et donc je pense que c'était important de le dire avant que ça arrive, parce que il est effectivement indispensable qu'une solution soit trouvée pour que ça n'arrive jamais. On dit qu'on est des juges des enfants, qu'à ce titre, on a prêté serment, qu'on est tenu d'assurer notre mission, qui est de protéger les enfants en danger, et qu'à cause de questions de moyens financiers et de moyens humains, on peut pas le faire. Et que la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a des enfants qui se trouvent dans des difficultés terribles, et que si on les aide pas maintenant, ça va devenir des adultes qui vont poser des difficultés énormes à la société et qui vont avoir un coût beaucoup plus important que celui qui serait mis en place pour la protection de l'enfance. Et c'est aussi des adultes qui vont eux-mêmes, à un moment donné, certainement faire des enfants.
La République refuse de voir la réalité.
Sur la question de l'enfance en danger, avec Agnès Buzyn, nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale et évidemment, la situation de la Seine-Saint-Denis sera prise en compte. Donc vous voyez, je ne me défausse pas.
On trouve toujours des considérations techniques, on trouve toujours des points de détail sur lesquels s'appuyer, on montre qu'on fait des efforts pour ne pas voir la réalité.
Aujourd'hui, nous ne voulons plus de paroles, nous voulons des actes en Seine-Saint-Denis et nos enfants doivent être protégés.
Muffled sound of fist on flesh, blows to chest, no breath, air gasps. You ain't nothing but white trash, bitch. With each hit, each kick, each broken rib, crack, crack, bones are crying. Mommy's crying and bleeding and pleading, and then daddy wants to fuck. Dick hard, swelled with power rush. And as if all that wasn't enough, mommy's 7 months heavy with birth as daddy grunts and curse, drunk nothings in her bloodied ear. First lullaby, first son we'll ever hear and never forget. Mommy called crazy and scorned cause she two more born. One boy soon after, the girl much later, and although they were both sung the same lullabies of hate, her first son, the first one whose womb world was profaned, came of age playing street games with Stewie, Rezzy, and little brother till his heart start to wither in pain and shame. Blamed mom for the wrong she let daddy do to her and him, let sins of the father cause his innocence to wander. Found honor amongst thieves, chose to squander his dreams, stop believing in himself, become prodigal with his life, make impossible shit right with gang ties, crime, lies, erase wise, woeful words of mother, replace them with absurdities of others who had also lost their way, destined for demise. Survive 9 lives of staying high, conning, jewelry pawning, arrests, theft, womanizing, only for money, never for sex, bullet in chest, baseball bat to the head, left for dead. So-called friend runs for door, leaves first son bloodborne, lying alone in blood on cold floor. Death was the cost of returning to innocence, lost.
Au revoir, monsieur. Au revoir, les enfants, vous dites au revoir, quand même. Au revoir, chérie.
Alors, Nina, tu viens avec moi? Je pense que la reine des neiges doit venir avec nous.
Non.
Allez, viens, Nina.
Et t'es venu chat, prends le loup.
Si tu veux te mettre dans le coin pour jouer, Luna, tu sais que tu as le droit. Hein. Tu fais comme tu veux.
Qu'est-ce que tu fais, Luna?
Tiens-toi
dans le catalogue. J'ai l'impression que c'est un peu une liste pour le Père Noël, non, que tu es en train de préparer. Oh là, je sais pas si tu peux tout entourer par contre pour le Père Noël, Luna.
Non,
je
vais charger. C'est un tout.
C'est un tout, d'accord.
Allez-y.
Je veux dire, ça a été suspendu parce que la petite fille avait besoin d'aller aux toilettes. Et j'en profite pour vous demander, alors, vous, vous êtes...
Anaïs Agudo, je suis juge des enfants à Bobigny depuis un peu plus de 2 ans maintenant.
Alors là, on est dans votre bureau.
Oui.
Il y a un petit coin avec des jouets pour les enfants.
Oui, l'essentiel des audiences d'assistance éducative se fait dans le bureau du juge des enfants, systématiquement.
L'assistance éducative?
C'est la protection de l'enfance, donc c'est les mineurs en danger, justement, qu'on reçoit dans le bureau, qu'on reçoit avec leurs parents. L'objectif, c'est que ce soit assez peu formel aussi, parce que c'est parfois des enfants très jeunes. On porte pas notre robe de magistrat, hein, on est en tenue civile. Chacun parle à son tour, quand même, mais la parole est assez libre entre les services éducatifs, les enfants, les parents, et tout le monde va être entendu dans ce cadre-là. Au pénal, on peut entendre les jeunes qui sont délinquants, du coup, à la fois dans notre bureau, et à la fois dans la salle d'audience du tribunal pour enfants, qui est les plus solennelles pour les jugements, quand on est sur des faits qui sont relativement graves, ou en tout cas que ces mineurs ont plus de 16 ans.
Pourquoi vous avez choisi ce métier, vous ?
Parce que, de manière très idéaliste, je pense que la justice des mineurs peut avoir de lourdes conséquences, en tout cas sur la société. On influe beaucoup plus sur des mineurs, ils sont plus malléables, ils peuvent plus facilement changer. Et du coup, l'intérêt d'agir sur ces mineurs en difficulté, c'est qu'ils se sentent protégés par la société et qu'ils puissent y trouver une place plus tard.
Maman.
Merci, maître. Allez, Loulou, au fond de la chaise.
Ah, bébé.
C'est bon, Luna, on peut y aller cette fois-ci? T'es prête? Ok. Donc l'audience peut commencer, on va couper l'enregistrement.
Grande salle d'attente au rez-de-chaussée. Bonjour.
Bonjour.
Là, vous attendez de voir le juge. Vous êtes avec vos deux enfants?
Oui, on était sur une surveillance à la DAS. Vous voyez là, même on était en urgence, il n'y a aucune personne qui va intervenir. Il faut attendre quand même 3 mois pour tomber sur un juge des enfants, vous voyez là.
Vous êtes là pourquoi, vous, ce matin?
Je ne peux pas parler à mes enfants. Donc il y a une situation, vous voyez. Donc on va s'arrêter.
D'accord.
On va faire une session. Ouais.
D'accord. Voilà. Merci. Cabinet 102, juge des enfants, Anaïs Agudo.
Tu peux tout ranger, Luna, les jouets? Super, merci beaucoup. Tu remets tout dans le petit sac, c'est tout le petit kit de cuisine.
Du coup, là, l'audience est terminée. Vous pouvez me dire quelle décision vous avez prise?
J'ai décidé du maintien du placement de Luna pour une nouvelle année. En revanche, il a été aussi décidé une ouverture des droits de sa maman. Donc, ça veut dire que Luna va maintenant pouvoir passer des temps de sortie, des après-midi avec sa maman et pouvoir surtout aller y dormir de temps en temps, petit à petit, de manière progressive, pour que le lien qui a bien évolué et qui est de bonne qualité aujourd'hui puisse continuer à se construire entre madame et sa fille.
Je peux vous demander ce que vous pensez de la décision?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est mieux de faire selon l'évolution de ma fille et de moi, et faire progressivement pour pas qu'elle soit replacée.
Ça fait combien de temps qu'elle est placée?
Elle est placée depuis l'âge de ses 2 ans. Et là, elle va avoir 5 ans au mois d'avril. Du coup, ça fait pratiquement 3 ans.
Vous aviez vécu comment le placement à l'époque?
Très mal, la séparation de ma fille. Mais après, peu à peu, j'ai appris à gérer le placement et tout ça s'est mis à peu à peu.
Comment ça se fait qu'elle avait été placée?
La raison, en fait. Il y a une raison, mais la raison, je ne m'en rappelle plus. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé entre-temps et tout ça, du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux avec ma fille et c'est ça qu'il faut prendre en compte.
Là, vous la voyez tous les combien?
Tous les 15 jours.
C'est pas beaucoup aussi.
Oui, c'est ça. Mais après, on fait avec. Il n'y a pas le choix. Hein, Loulou?
Et là, donc, vous allez la voir à Noël?
Oui. Très contente de l'avoir à Noël et son anniversaire. Et on verra avec les éducateurs comment on va dérouler pour les vacances.
C'est la première fois que vous allez passer Noël ensemble depuis...
Oui, c'est ça. J'ai passé une journée à Noël et à son anniversaire. Et maintenant, ça va me faire grand bien d'avoir ma fille un week-end à Noël.
Et quand même, vous avez réussi à maintenir un lien malgré tout. Ça se voit, quoi. Vous êtes très proche.
Oui, très très proche. Et c'est ça qui me fait beaucoup de bien, en fait. C'est que ma fille ne se sépare pas de moi. Autant que moi, avec mes parents qui étaient très séparés, que je voulais pas leur parler ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai pas envie de reproduire mon passé pour ma fille. Du coup, c'est ça qui me fait du bien.
Vous étiez placée aussi déjà?
Oui, à l'âge de 12 ans. Du coup, c'est ça qui m'a fait du mal et le fait que ma fille soit placée aussi.
Comment ça s'est passé avec madame la juge?
Elle m'a vachement aidée. Et c'est ça qui m'a fait aussi grandir. Parce qu'en fait, moi j'étais placée et après j'ai eu ma fille à 18 ans. Et c'est ça qui m'a aidée à grandir. Parce que sinon, j'allais rester bébé dans ma tête. On va dire ça entre parenthèses.
Mettons tout dans la salle, d'accord? Un loulou.
Au revoir,
Luna. Allez, ma
prince.
Tu rembarques tous tes jouets?
Là.
Au revoir.
Au revoir, bon courage.
Au revoir, madame. Bon courage.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Allez, loulou.
Nous, juges des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny, souhaitons alerter sur la forte dégradation
des dispositifs de protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis.
Comme un bruit qui court.
Nous sommes devenus les juges de mesures fictives, alors que les enjeux sont cruciaux pour la société de demain.
Début novembre, tous les juges du tribunal pour enfants de Bobigny, vous avez publié une tribune qui était un appel au secours.
Le tribunal pour enfants de Bobigny est depuis toujours... une forme de vitrine médiatique de la justice des mineurs parce qu'on est le plus gros tribunal pour enfants de France avec Paris du fait du nombre de jeunes dans ce département. On a un département qui est quand même très très jeune mais aussi très précaire finalement. Donc on a beaucoup de population, une grosse proportion de la population qui est concernée par la justice des mineurs. Cet appel au secours, c'est un constat qu'on dresse sur l'état des services publics en Seine-Saint-Denis et pas uniquement au niveau de la protection de l'enfance parce que la protection de l'enfance, c'est le bout de la chaîne, si on peut le dire comme ça. Ça dépend aussi de ce qui se passe avant, au niveau de l'éducation nationale, de la santé, des prises en charge diverses comme les suivis psychologiques, les suivis médicaux, l'orthophonie, la psychomotricité. Tous ces intervenants sont censés aider les mineurs en difficulté, les familles. Mais on est dans un département où on assiste à une dégradation de l'ensemble des services publics qui conduit de fait à une dégradation de la situation de ces enfants non pris en charge, à une augmentation des signalements et des saisines des juges des enfants. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on ordonne des mesures qui ne peuvent pas être exécutées par manque de moyens humains, à proprement parler.
Vous dites dans la tribune, vous êtes les juges de mesures fictives.
Oui, c'était un sentiment de perte de sens de notre action, de perte d'utilité aussi, finalement, de notre fonction et de nos décisions. Parce que si les mesures qu'on ordonne, elles ne sont pas exécutées, au final, c'est comme s'il n'y avait pas de mesure, et c'est pour ça qu'on a choisi ce terme de mesure fictive. Pour certains parents, ceux qui sont d'accord avec cette aide éducative, ils vont nous écrire, ils vont nous solliciter pour dire « je comprends pas, vous aviez dit qu'on allait avoir un éducateur qui allait nous aider, il n'y a personne qui est là pour nous ». Donc ça, c'est compliqué à vivre. Pour les parents qui n'étaient pas forcément d'accord, mais où, grâce à l'audience, on arrive à aller chercher un petit peu d'adhésion, un petit peu un début d'intérêt pour l'intervention éducative, ce délai extrêmement long fait qu'ils perdent toute confiance dans le système et dans ce qui a été proposé. Et finalement, pour ceux qui n'en voulaient vraiment pas, quelque part, ça les maintient dans l'idée que bah, c'est pas si grave que ça, puisque de toute façon, on ne fait rien. Mais parfois, on décide aussi de ne pas ordonner de mesure alors que ça en mériterait une, juste parce qu'ils sont trop vieux, eu égard au délai de notre département. Et ça, c'est pas normal, parce qu'il y a une rupture d'égalité sur le territoire. Ça veut dire que quand on a 17 ans en Seine-Saint-Denis, on n'est pas traité comme on le serait dans n'importe quel autre département.
Il y a eu 8 postes de magistrats supplémentaires par rapport à 2016 et il y a eu une affectation de 19 greffiers supplémentaires. Après, c'est au président du tribunal de savoir où il les affecte dans son tribunal.
Mais la Seine-Saint-Denis n'est pas un département comme les autres. Tout le monde le dit, nous ne sommes pas Paris, nous ne sommes pas les Hauts-de-Seine. Et c'est vrai que les besoins en termes de moyens humains au tribunal sont plus grands. Et on ne veut pas entendre cela. Le gouvernement ne veut pas l'entendre comme les précédents ne l'ont pas entendu. Et donc il faut que ce soit les professionnels de la justice qui se mettent en colère pour qu'enfin on puisse les écouter. Moi, ce que j'espère maintenant, c'est que de l'écoute, on passe aux actes.
Vicky, vas-y, tu peux entrer, je t'en prie.
Bonjour.
Désolée, vous
c'est pas grave.
Viens, viens, viens. Bonjour.
Bonjour.
Vas-y, assieds-toi, Vicky.
Tiens, viens là.
Tu étais chez le juge d'instruction ici à Bobigny ?
Oui.
T'as été entendue du coup ?
Oui.
Ce matin ? C'était pas trop difficile ?
Non.
T'as l'habitude maintenant ?
Oui.
T'es au courant que l'autre monsieur, il a été jugé par contre ?
Oui.
Ah, ok. Du coup, il a été condamné, il n'y a pas de difficulté, personne n'a remis en cause ce que toi t'avais dit, en tout cas à l'audience. Il a en plus, dans sa condamnation, il y a une partie avec sursis mis à l'épreuve, oui. Et donc du coup, il a eu l'obligation en tout cas de se soigner, parce que on considère que c'est un monsieur qui a besoin de se soigner, parce qu'il est dangereux en fait, de faire ça à des enfants. Il aura des comptes à rendre à la justice pendant longtemps en fait. Comment tu vas toi, Vicky ?
Ça va.
C'est un petit ça va quand même, hein ?
Non, ça va.
T'as grandi depuis la dernière fois que t'es vu ?
Oui, ça fait longtemps.
Ben oui, ça fait longtemps. Tu l'avais revu, ce monsieur, avec ton papa, là ?
Non.
Bon, pas intérêt de se présenter à ma prochaine audience.
Et moi, je vais vous faire une note. Je vais écrire une note parce qu'on s'est vu avec Vicky vendredi. Où Vicky demande à ce qu'il y ait moins de visites avec son papa. Parce qu'elle est en colère.
Il y avait moins d'appels aussi. Tu avais demandé
moins d'appels. Moins d'appels.
Un toutes les 3 semaines, tu m'avais dit ?
Oui.
Tu veux rester un peu dans ta bulle, en fait. Tranquille. Ok. Bah, demande-moi. Noël, vas-y.
Est-ce que je pourrais aller la première semaine chez ma mamie ?
Ah bah, chez ta mamie, oui. On a toujours été d'accord pour que t'ailles chez mamie. On n'a pas d'inquiétude quand t'es chez mamie, ça se passe très bien.
Très bien.
Et ça va comment pour Vicky ? Puisqu'elle me dit que ça va bien.
Ça va pas toujours très très bien. N'étant pas possible de mettre en place pour elle une scolarité dite ordinaire, elle a fait sa rentrée de 6e, on finance une école Montessori. Et parfois elle va pas bien, elle le dit pas, puis c'est inquiétant en fait.
Parce qu'à un moment il va falloir qu'on pose des mots sur ce qui t'est arrivé, Vicky, et que surtout on pose des mots concernant aussi les adultes, donc ton papa et ta maman, sur comment par leur choix d'amis et de fréquentation ils ont pu t'exposer, parce que c'est ça, à du danger en te mettant face à des gens qui t'ont agressé. C'est comme ça la question. Et en vrai, t'as le droit d'être fâché. T'as le droit de leur en vouloir. Après, il faudra qu'on travaille avec ça pour voir comment tu grandis avec tout ça, mais t'as le droit d'être en colère. On peut pas te le reprocher. Hein. Et en vrai, nous aussi, ça nous énerve qu'il s'est fait ça, donc c'est normal que toi, ça t'énerve. D'accord ? Quand j'ai appris, moi, que le monsieur que t'avais dénoncé, quand je t'ai dit que c'était très courageux d'avoir dénoncé tout ça, c'était le monsieur qui attendait dans la salle d'attente pour mes audiences, j'étais plutôt très énervée. Et parce que j'ai un caractère un peu impulsif, tu vois, qui s'énerve facilement. Donc c'est le genre de truc qui me fait assez rapidement sortir de mes gonds. Sortir de ses gonds, c'est-à-dire s'énerver d'un coup. D'accord ? C'est toi qui as voulu venir me voir ou c'est Madame Gilles qui t'a dit de venir me voir ?
C'est moi.
Trop mignon. Bon, bah, c'est gentil d'être venue, Vicky. À bientôt. On se voit au tout début de l'année. Passe de bonnes vacances, bonne fête de fin d'année.
Merci. Je suis sa
mamie. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Bien, déjà tout le monde.
Bah oui, je me doute, je suis en retard du coup là.
Okay.
Mais Vicky, c'est Vicky.
Oui.
Vicky, elle passe avant.
Voilà.
Comment un dossier comme ça
arrive chez vous, par qui c'est signalé, comment on se rend compte ?
Elle était déjà suivie au moment où les faits se sont produits. Ça n'a pas été révélé tout de suite, c'est après quand elle était dans le cadre du placement. Les adultes autour d'elle se sont interrogés parce qu'elle avait des comportements qui posaient question pour une petite fille de son âge. C'est ce qu'on appelle, dans un jargon assez professionnel, des comportements sexués. Donc avec des gestes qu'on ne doit pas voir chez un enfant de son âge. Et avec des moments où elle pouvait être très inadaptée dans la relation avec les hommes adultes. Donc il y a des questions qui lui ont été posées. Et petit à petit, parce qu'elle avait confiance en ses professionnels et en ses éducateurs, elle a pu dire ce qui lui était arrivé avant. Et c'est comme ça qu'on a su.
Vous étiez très contente de la voir et courir vers elle.
C'est une petite fille qui a été placée très 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 jeune avec des parents qui étaient plutôt marginaux, qui vivaient dans une colocation avec beaucoup de monde, tous mélangés sur fond quand même de consommation de toxiques, on va dire ça comme ça. Il y a eu des retours à domicile qui ont été tentés, elle a été replacée derrière, on a essayé un placement chez un membre de la famille mais qui pour des raisons de santé n'a pas pu continuer à la garder. Du coup c'est une petite fille qui a connu beaucoup beaucoup de ruptures dans son parcours, déjà institutionnel et familial, et qui en plus a été victime à deux reprises de faits d'agressions sexuelles et de viols de la part d'amis de la famille qui donc gravitaient dans cet entourage de personnes plus ou moins fréquentables et qui aujourd'hui portent les stigmates hein, d'une enfant qui a connu toutes ces ruptures et ces agressions-là. Ce matin, elle a fait le choix de passer me voir à mon bureau parce qu'elle venait d'être entendue justement par un juge d'instruction concernant une des procédures d'agression sexuelle. Et c'est assez particulier, le juge des enfants a toujours une relation ambivalente avec les mineurs qui sont suivis. Il y en a certains qui nous aiment beaucoup parce qu'on incarne une figure de protection. Il y en a d'autres qui clairement nous en veulent parce qu'on incarne le placement et la séparation avec les parents. Mais il y a une relation en tout cas qui est là, qui est assez forte. Et pour cette petite fille-là, cette relation s'est créée dès la première audience parce qu'elle m'a fait des révélations concernant les faits d'agression sexuelle dont elle avait été victime. Et du coup, c'est une petite fille avec qui j'ai une relation particulière, mais qui est aussi très attachante du fait de son parcours très abîmé. Elle va garder sûrement des signes à vie des infractions sexuelles qu'elle a subies, parce qu'on en est conscient aujourd'hui, en tout cas les psychiatres et psychologues, sont tous d'accord sur le sujet. Quand on a été victime d'une infraction sexuelle, a fortiori dans la petite enfance, on n'en sort jamais indemne. Ça laisse des traces, même au niveau physique, sur la personne. Et donc, il faudra juste qu'elle se construise avec tout ça. Je dis juste, ça peut paraître un peu dur, c'est il faut qu'elle apprenne à vivre avec. Ça sera son bagage, ça sera son histoire. Un peu plus lourd à porter que pour d'autres. Ça va mieux, parce qu'elle est posée dans son lieu de placement, qu'elle y est bien, qu'elle arrive quand même à avoir une scolarité. Mais on ne peut pas se réjouir d'une enfant qui garde des troubles du comportement, des gros moments de tristesse ou de colère dans sa vie.
Fais pas ça, je serai sage comme une image. Alors pourquoi t'es pas gentil? C'est pas juste et moi, j'ai pas l'âge. Ça va me faire mal à la vie. C'est pas de ma faute à moi si je veux pas faire ça. Et toi, tu sais pourquoi ça se fait? Que le silence, ça fait du bruit. Tu m'as dit que c'est un secret. Et moi j'ai fait pipi au lit. Papa, c'est toi qui es le plus fort. Touche pas à mon corps. Papa, c'est toi qui es le plus fort. S'il te plaît, me fais pas ça, papa. T'arrête, fais-le pas. Moi je t'aime que toi. Alors je le dis dans ma tête. Ne reviens plus. Mais t'en vas pas. C'est pas de ma faute à moi si je veux pas faire ça. Et toi, tu sais pourquoi ça se fait? Pourquoi personne il peut le voir? Tu m'as dit que c'est un secret. Pourquoi personne il veut savoir? C'est toi qui es le plus fort. Touche pas à mon corps. D'accord.
Bonjour. Vous allez bien?
Oui, très bien, vous maître.
Très bien, merci.
Ça s'agite, il paraît.
C'est moi qui m'agite.
Ah, ça va alors. Bah, les enfants, c'est pas grave.
Mais si on est où là? C'est rempli de dossiers là.
Là, on est au greffe. Le greffe, bah, c'est. Comment dire? C'est la face cachée. C'est nos petits lutins qui authentifient la procédure. Tous ces petits dossiers qui sont là autour de nous, c'est les dossiers à la fois en protection d'enfance et les dossiers pénaux. Le courrier qui est mis là sur des bannettes sur le côté, les décisions qui doivent être préparées, les audiences à venir, tout est là. Et ce qui est dans les armoires, ce sont tous les dossiers de protection de l'enfance, donc de tous les enfants suivis par chaque juge des enfants. On en a 400 à 450 chacun, donc 400 à 450 familles, donc c'est beaucoup plus en nombre d'enfants, et c'est ceux-là qui sont dans les armoires autour de nous.
Vous, vous suivez 450 familles?
Familles et mineurs non accompagnés, donc il y a les deux qui sont concernés.
Alors, en piste?
Ouais. Donc l'audience commence, on va couper l'enregistrement.
Des policiers.
Bonjour.
Vous êtes policier?
Apparemment.
Vous accompagnez un mineur?
Vous avez vu les mineurs isolés? On a 10 ou 12 qui arrivent par jour. Ils n'ont pas de papier, ils ne savent pas où dormir. Et du coup, on est censé leur donner un rendez-vous pour qu'ils soient placés dans le cadre d'une assistance éducative. Mais là, par exemple, il a rendez-vous en février 2019. Il vient de me dire qu'il ne savait pas où dormir jusqu'en février.
Là, c'est un document qui émane de la Croix-Rouge.
Du PMI, le pôle d'évaluation des mineurs isolés étrangers. En fait, ils vont en entretien avec les mineurs dans le but de connaître leur parcours, de savoir si la minorité est avérée. Ils font leur rapport qu'on transmet au magistrat, qu'ils le reçoivent en une audience d'assistance éducative pour voir s'il est possible ou pas de les placer auprès de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Mais là, ça prend très longtemps. Et entre-temps, il est tout seul. Et il est dans la rue. Et il en arrive des dizaines tous les jours. Et plus il fait froid, plus il y en a.
Vous appelez comment, vous?
Sarah.
Vous êtes crèvière?
Oui.
Là, du coup, vous allez
sortir une convocation et je vais remonter lui donner. Et après, j'ai pas de solution pour lui entre-temps. J'ai ma collègue qui a fait un dossier avec des noms d'associations, des lieux où ils peuvent aller. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on peut leur donner en attendant, du coup, l'audience qui a lieu le 19 février. Et on est le 21 novembre. Tu veux que quelqu'un pour traduire le jour de l'audience?
C'est bon.
Non, c'est bon. Ok. T'as aucun papier d'identité? Rien. Tu sais que sans papier d'identité, ça va être compliqué. Personne peut t'en envoyer?
On peut m'envoyer.
Ce serait bien. Un extrait d'acte de naissance, quelque chose. Parce que sans papier, on peut pas être sûr que tu sois mineur. Ok? Ça, c'est ta convocation. Tu vas d'abord à la Croix-Rouge, et ensuite, tu reviendras ici. Et ça, c'est une association. Moi, je peux pas te donner d'endroit où dormir.
Donc, comment moi, je fais?
Tu vas déjà aller voir cette association. Ils peuvent t'aider. Sinon, tu as deux solutions. Le commissariat ou l'hôpital. Je peux vraiment pas t'aider plus. Je suis désolée. Je sais que c'est dur. Tu connais personne?
Non, sauf les amis que je les ai croisés sur la route. Quand j'ai dormi au dehors, ceux qui m'ont aidé un peu, tout ça.
Ok. Nous, la justice, on pourra t'aider à partir de février. Je sais que ça va être long, mais on n'a pas de date avant. C'est pas possible avant. Il faut que tu ailles à Stalingrad. Il y a des associations, des gens qui pourront t'aider. Stalingrad, c'est la ligne bleue. Bleu comme ton gilet. Ok? Je peux rien faire de plus, moi. C'est bon? Ça va aller? Bonne soirée.
Vous êtes arrivé quand en France?
Ça fait 6 jours maintenant.
6 jours?
Quand je suis arrivé à la police, c'est la police qui m'a dit qu'il devait venir.
La police?
Oui, parce que je n'ai pas une de toi. Donc ils m'ont dit non, qu'il devait venir, c'est de venir expliquer que je n'ai pas une de toi. En fait, rien n'est résolu.
Protection de l'enfance à l'heure des budgets sociaux réduits à peau de chagrin, voilà peut-être une revendication ajoutée aux doléances des Gilets jaunes.
Et après les magistrats de Bobigny, c'est au tour de ceux de Lille de lancer un cri d'alarme à l'unisson avec les travailleurs sociaux du Nord, mobilisés depuis 3 mois.
Comme par hasard, les quartiers populaires, notons-le, sont les plus mal lotis pour l'accès à la justice. Cette rupture d'égalité explique aussi pourquoi il y a des gilets jaunes venus depuis l'autre côté du périph' à Paris aujourd'hui, Antoine.
Comme une volonté de convergence des périphéries. La France des quartiers populaires qui rencontre la France des ronds-points en ce troisième acte de la mobilisation des gilets jaunes. Mais ça se prépare un peu. Jeudi, place de la République, c'était « Eh Paris, on se bouge !» à l'appel du collectif « La fête à Macron ». Une AG façon nuit debout ressuscitée, un bon millier de personnes, des prises de parole avec notamment François Ruffin, Frédéric Lordon et Assa Traoré du collectif Vérité pour Adama. Pour, on se demande quoi faire et comment apporter des forces progressistes avec dans la bataille du moment. Et vendredi, c'était le collectif Rosa Parks qui préparait aussi une manif pour aujourd'hui, justice, dignité ou rien, en parallèle de la mobilisation des gilets jaunes pour que les quartiers populaires discriminés et pas que dans le domaine de la protection de l'enfance soient de la partie et que Paris et banlieue s'éveillent.
Comme un bruit qui court.
Vous avez une responsabilité.
Les ouvriers sont déprimés.
C'est le Paris de mai 68.
Les gens se lèvent et sont brimés.
C'est cette tradition-là.
Paris.
Dont vous êtes les porteurs. Vous êtes les porteurs de cette histoire.
Bon, bienvenue à déjà tous ceux qui sont là. Profitez de s'installer. Ça a bientôt commencé. On est là pour vous écouter.
Sur France Inter.
République, 29 novembre. Rendez-vous 19h. François Ruffin va prendre la parole.
Moi, mon rôle dans tout ça, il est de servir de passerelle.
Alors, qui organise du coup ?
Qui organise la fête à Macron. Et là, dans la même dynamique, on s'est dit les gilets jaunes, on voit que tout le monde se regarde en chien de faïence. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Politiquement, on sent qu'il y a à boire, à manger, on ne sait jamais. Donc, on s'est dit c'était l'occasion, dans ce contexte de contestation, de proposer un espace avec une ligne politique claire, on va dire, et permettre aux gens de se rencontrer avec cette ligne politique-là et converger pour samedi, pour être un max de monde à la manif. Et après, la suite, si on arrive à créer des liens, des espaces, des passerelles, et vraiment permettre aux personnes qui étaient un peu perdues là, dans ce mouvement de pouvoir renforcer la contestation et aller un petit peu plus loin dans la contestation.
Alors, de quelle manif tu parles samedi ?
Alors là, la manif des Gilets jaunes. Voilà, et après, il y a aussi le collectif Rosa Parks qui fait une mobilisation. Là, c'est la même chose. Il y a une partie aussi des personnes de la fête à Macron qui s'investissent pour qu'il y ait quelque chose avec le collectif Rosa Parks qui aussi donnera un soutien à la marche des chômeurs du 1er décembre. Tout ça, il y est.
Okay.
Bonsoir. Donc moi, je m'appelle Malika Zeliri. Je suis pas de Paris. Je ne suis pas loin. Je suis en banlieue dans le Val-de-Marne à Ivry-sur-Seine. Moi, je suis au chômage. J'ai 58 ans. Je suis au chômage depuis plusieurs années. J'ai toujours bossé. J'ai même eu des responsabilités. Aujourd'hui, j'ai cette boucle mes fins de mois avec 600 euros par mois. Vous comprenez bien que j'ai la rage. Alors, merci François Ruffin. Merci les Gilets jaunes. Merci pour tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a que quand on bat qu'on peut avoir un peu d'espoir. Sinon, c'est mort ce qu'on nous propose. C'est une société d'exclusion. Et c'est pas possible, l'exclusion à perpétuité. Ça peut pas durer. Alors donc, oui, ici, on est près des lieux de pouvoir. On est aussi près des lieux de richesse. Et il faut les bloquer, les lieux de richesse. Les magasins où on peut pas rentrer parce que c'est trop cher. Donc, mettons ça dans ses responsabilités. Et oui, Paris doit y aller. Et oui, sa banlieue aussi doit se soulever. C'est de notre responsabilité. C'est demain qu'on est en train d'écrire. Parce que demain, c'est pas vrai pour tout le monde aujourd'hui. Demain, ça va bien pour ceux qui vont bien. Les autres, c'est la galère tous les jours. Voilà, je vous remercie. On continue, on est appelé à se revoir.
Je suis le fond de la place Dauphine et la place Blanche, mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris.
On ira aussi sur les Champs-Élysées. Avec les quartiers populaires, tous les quartiers populaires en disant
Paris.
Nous aussi nous sommes des gilets jaunes.
C'est les travestis vont se raser, les titres sont ralliés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris. C'est les Paris.
Bravo.
Bourse du travail.
Préparer des banderoles pour la marche le samedi.
Sale croisa.
Personne n'est-il légal.
Le 1er décembre 1955.
En noir et jaune.
Voilà, c'est les couleurs de la mobilisation Rosa Parks.
Rosa Parks, une couturière de Montgomery, Alabama, refusait de céder sa place dans un bus à un blanc. Ce 1er décembre, elle avait refusé l'humiliation, simplement parce qu'elle en avait assez. Son destin se joua à cet instant précis. Elle ne se doutait pas qu'il allait changer le cours de l'histoire.
Et donc c'est un atelier collectif, là, un peu improvisé.
C'est une première journée d'action aussi. Donc il y a l'idée de bloquer un peu les endroits, les lieux de travail, les facs, c'est ça ? Pour réapparaître le samedi en masse, autant que possible, en sachant qu'il y a de la concurrence dans la rue en ce moment.
Exactement, il y a de la concurrence sur tous les plans.
C'est plutôt bon signe, ça, non ?
Oui, après, l'essentiel, c'est que les objectifs des uns et des autres soient clairs. Voilà, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Donc, on n'abandonne pas le terrain qu'on prépare depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, c'est ça l'idée.
Ouais, donc, le 1er décembre, on occupe la place pour exiger égalité et dignité pour tous et toutes. Manifestation nationale, 14h, place de la Nation.
Jusqu'à République. Alors, moi, je suis militante syndicale, voilà, à l'Union syndicale solidaire. Et je pense que une des raisons de nos difficultés à gagner des combats sur le terrain social ces dernières années, c'est aussi parce que on n'est pas assez unis avec toutes les catégories de la population et en particulier les personnes qui sont victimes du racisme pour mener des combats qui concernent véritablement tout le monde. Donc je pense que le combat antiraciste, c'est une donnée essentielle du combat pour la justice sociale. Donc je suis là.
Alors vous, c'est syndicaliste avec Rosa Parks, voilà, du scot jaune, sur des pancartes noires.
La solidaire aussi,
ouais. Alors vous, ça va être quoi, là ?
Régularisation de tous les sans-papiers. Et maintenant, si on le fait petit, en fait, le rouleau est trop large.
Du coup, pour faire des lettres, c'est...
C'est un casse-tête, quand même, hein.
Il faut choisir le bon mot, le bon slogan... Mais qu'il soit pas, le mot ne doit pas être très très lent non plus.
Il n'y a pas que faire des affiches qui est un casse-tête, non ?
Oui, c'est ça. C'est toute la réalité sociale qui est un casse-tête.
Et cette journée de samedi aussi, quoi.
Oui, bien
avec
sûr.
Cette marche qui est annoncée, des gilets jaunes, avec la venue de Marion Maréchal Le Pen qui a annoncé qu'elle serait sur les Champs-Élysées.
De toute façon, nous, on a choisi notre territoire politique. Et notre territoire politique, c'est l'antiracisme politique. Ça veut dire qu'on a une oppression spécifique liée à l'histoire coloniale et à la traite négrière et liée aussi à la domination du pays du Nord sur les pays du Sud. Et cette réalité, elle est centrale dans le monde. La question des sans-papiers, la question des migrants, la question des étudiants étrangers qu'on veut priver de leurs droits les plus élémentaires et la question en fait des violences policières racistes avec des spécificités certes françaises mais cette réalité elle est massive dans le monde et donc c'est pour cette raison que nous on va se retrouver à la marche de Rosa Parks dans certains endroits en fait quand on est arabe, quand on est noir, quand on est rome. On est encore en dessous de la France, d'en dessous. On ne peut pas faire fi que la réalité sociale touche d'une manière encore beaucoup plus terrible une partie de la population française. N'importe quel mouvement social, quel qu'il soit, est voué à l'échec s'il ne résout pas cette question.
Attention.
Oui, voilà. La tour Eiffel, la chaux-pied, l'arc de triomphe est renversé.
Tous les secteurs ont des raisons d'être en colère.
La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris.
En vérité, tous les secteurs ont des raisons d'être à bout.
C'est vrai.
Les quartiers populaires font 40% de chômage dans certains quartiers.
Paris.
Car le dégoût est général.
C'est vrai. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Paris. Rue François 1er,
ce matin sans arrêt.
Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris. C'est vert. Paris.
Je sens vraiment qu'il y a du cœur pour une fois. J'ai 22 ans, moi.
C'est vert.
C'est la première manifestation que j'ai faite.
C'est un combat contre l'oligarchie.
Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier.
Haute-Savoie, c'est ma première manifestation.
Les ouvriers sans Dieu, sans maître, on gestionne la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures. Le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
C'était comme un bruit qui court et comme vous l'entendez, on vous l'a dit, il est 5 heures.